18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
J'étais en train de régler la technique, figurez-vous. C'est comme ça, c'est le direct. Bonsoir, bonjour, chers amis auditeurs, ravis de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver de 18h à 19h30. Alors les informés, votre magazine, votre émission, vous le savez, c'est votre rendez-vous où on commente, où on analyse, où on décrypte. Au sommaire de cette émission, eh bien, chers amis, d'abord, l'interview pour parler du premier salon. Vous savez quoi, de l'immobilier algérien en France. Ça s'appelle Sina Paris. C'est avec justement notre invité tout à l'heure. Et ensuite, après, j'ouvrirai l'antenne parce que vous savez quoi, j'ai vu une déclaration d'Éric Zemmour qui revient ce matin sur CNews. Et il dit les Français de souche ont quitté les banlieues. Même les immigrés qui veulent éduquer leurs enfants à la française la quittent. Faut comprendre quand même. Ben, je veux en parler avec vous pour mieux comprendre, voir si on comprend la même chose. 01 53 48 3000. Tout à l'heure, en direct à partir de 18h15, justement. Au sommaire de cette émission, vous le savez, c'est trois sujets qui ont retenu notre attention face aux débatteurs tout à l'heure. On reviendra sur la mobilisation partielle en Ukraine, mais également aussi direction l'Iran qui bloque massivement les messageries et les réseaux sociaux. Face à cette colère qui ne fait que monter. Ensuite, l'Europe face au risque de l'extrême droite. Et puis, les violences faites aux femmes, après Adrien Quatennens, l'affaire Julien Bayou. Mais est-ce que tout cela ne plonge pas tout simplement la gauche dans l'embarras? Voilà le menu que je vous propose. Et puis, 01 53 48 3000. Vous, c'est vous les priorités. Vous êtes prioritaires, sachez-le. Allez! Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et sans tarder, c'est parti pour l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
Allez, on reçoit pour parler de ce premier salon, figurez-vous, de l'immobilier algérien en France. Sofiane Ouab, qui est le co-organisateur de ce salon. Bonjour Sofiane Ouab.
Bonjour, monsieur Adil Farkan.
Comment ça va? Oh, très bien, je vous remercie. Alors, il paraît que c'est inédit, le premier salon de l'immobilier algérien de France. Est-ce que c'est vraiment le premier salon de l'immobilier algérien?
Oui, c'est le premier, je peux vous l'affirmer. D'ailleurs, il peut s'inscrire dans la catégorie des événements, parce que c'est la première fois. Et donc, suite à une énorme demande, vous savez très bien que la diaspora est très dynamique par rapport à l'achat immobilier en Algérie. Donc ça, à chaque fois, ils cherchent à acheter, etc. Histoire de vous donner des chiffres, 30 à 35% des acquisitions dans le centre et dans l'ouest de l'Algérie, c'est 30 à 35%, c'est la diaspora qui acquiert des biens dans le centre et de l'ouest. Et 60 à 70% en Kabylie, principalement à Béjaïa, les zones côtières, on va dire, les projets touristiques. Donc il y a une énorme demande, il y a une dynamique, et nous, on s'est dit, il faut absolument faire un salon, et surtout après la période Covid, parce que ça fait 2 ans que les membres de la diaspora n'ont pas eu la chance de descendre, d'y aller comme ils avaient l'habitude de faire. Donc, on s'est dit avec
Sofiane Ouab, on a un problème de. Enfin, on a du mal. Je pense que vous utilisez votre haut-parleur, non?
Non, pas du tout.
Pas du tout, parce que je pense qu'on vous entend de loin, comme si vous aviez utilisé votre kit main libre ou un truc comme ça.
Ah là, vous m'entendez mieux là?
Ah oui, nettement mieux, oui. Nettement mieux. Mieux, Sofiane Ouab. Le Sina Paris, c'est l'événement qui est très attendu le 28, le 29 et le 30 octobre. On est d'accord?
Oui, tout à fait, à l'espace Charenton, dans le 12e. Donc, il va y avoir plus de 25 promoteurs immobiliers qui vont exposer, plus des experts en droit immobilier, parce qu'on tient absolument à informer les visiteurs. Vous savez très bien que c'est cette notoriété publique. Maintenant, le marché immobilier algérien, il est tellement opaque que les gens se posent tellement de questions avant d'acheter. Ils sont un petit peu... enfin, il se pose tellement de questions. Pour le coup, on a décidé de ramener aussi des spécialistes en droit immobilier pour leur expliquer comment ça marche, quels sont leurs...
Alors justement, ce premier salon, cette première édition, Sofiane Wahab, vous qui êtes le co-organisateur, c'est combien d'exposants, c'est combien de promoteurs immobiliers qui ont répondu présent, et surtout, vous attendez combien de visiteurs?
Alors, nous attendons 15 000 visiteurs, autour de 15 000 visiteurs, ça c'est dans la limite de l'espace, mais nous avons actuellement confirmé 20 promoteurs immobiliers. Et là, il y a peut-être 15 promoteurs immobiliers qui veulent nous rejoindre, mais ils n'ont pas pu décrocher un rendez-vous pour le dépôt de leur visa. Pour le coup, je pense que ça va être pour la deuxième édition. Mais nous essaierons quand même de les représenter. Nous sommes en train de réfléchir à une solution. En tout cas, ceux qui vont être présents, ils ont ramené de la qualité. Ils ont ramené des projets neufs avec d'excellents emplacements, voilà. Donc, il y a vraiment intérêt à visiter ce salon. Il y a beaucoup d'informations, surtout moi j'insiste sur l'information parce que toutes les questions que les clients se posent, je pense que nous serons en mesure de rapporter les réponses lors du salon.
Est-ce que lors de ce premier salon de l'immobilier, Sofiane Wahab, est-ce que en gros c'est l'occasion pour justement le public, le grand public, les franco-algériens, de rencontrer des promoteurs immobiliers sur place, durant ce salon?
Oui.
Est-ce que les
Bien
choses,
sûr.
Par exemple, il peut y avoir des tractations ce jour-là? Est-ce qu'il peut y avoir des discussions qui s'ouvrent sur des dossiers?
Bien sûr, tout l'intérêt est là, justement, parce que ce qui va être exposé, c'est des offres, c'est des projets clés en main, c'est des appartements, c'est des biens clés en main. Donc, l'intérêt, justement, est de conclure, ne serait-ce que enclencher un processus d'achat. Et puis, par la suite, ils doivent de toute manière peut-être aller en Algérie pour conclure, pour aller signer les actes notariés, etc. Mais au moins qu'ils prennent toutes les informations et qu'ils sachent un peu où est-ce qu'ils vont mettre leur argent. Il y a aussi des conférenciers qui vont soulever pas mal de questions comme par exemple la gestion de la copropriété. Donc, ils vont leur expliquer que les biens qu'ils vont acquérir vont être gérés, ils ne seront pas livrés à eux-mêmes, donc les futurs acheteurs. Il y a tout intérêt, justement, à conclure des ventes, bien sûr.
C'est aussi l'occasion aussi pour certains d'ailleurs, puisque j'ai vu que les banques sont au rendez-vous durant votre premier salon. La présence des banques, c'est aussi une manière de trouver des sources de financement, des solutions?
Absolument. Le financement immobilier, vous savez, c'est la clé de ces transactions-là. Donc, les financements, il faut absolument qu'on présente aux visiteurs les solutions de financement. Et il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de solutions de financement actuellement qui sont adaptées, que ce soit pour les clients du marché national ou ceux de la diaspora qui viennent. Donc, il y a plein de solutions. Normalement, les organismes financiers sauront bien expliquer quels sont les mécanismes, quelles sont les modalités de financement. Mais oui, absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Les financements immobiliers, c'est la clé.
Comment, Sofiane Wahab, comment se présente le secteur immobilier algérien aujourd'hui?
Ben, le secteur, vous savez, avec la période Covid, il y a eu un ralentissement comme partout dans le monde. Après, nous, vous savez, nos bâtisseurs, surtout nos exposants, ils ont su être résilients, ils ont tenu le coup. Et là, ils font une démarche commerciale absolument inédite. Donc, ils vont à la recherche des clients, ils vont à la rencontre de leurs futurs clients, de leurs prospects, pour leur proposer justement leur produit. Et ça va donner, c'est clair que ça va donner un bon bonus pour le futur.
On est d'accord, c'est que du neuf.
Ah, c'est que du neuf, mais je tiens aussi à informer les visiteurs et les auditeurs, bien sûr, que nous aurons un comptoir juridique où nous allons traiter aussi, nous allons essayer de répondre aux questions, parce que vous savez, il y a beaucoup d'histoires d'héritage, de transfert de propriété,
oui.
Et nous serons en mesure de leur répondre, d'apporter au moins quelques réponses sur leurs interrogations par rapport à ça, par rapport aux biens déjà qu'ils ont laissés, les biens qu'ils ont déjà laissé au pays là-bas. Et bien sûr, il y aura principalement le 9 qui sera le pivot de ce salon. Parce que nous avons tout simplement fait une étude, vous savez, nous, avant de nous lancer dans ce salon, nous avons fait une étude et nous sommes rendus compte que maintenant, la tendance, elle est plus dans le 9 parce que tout simplement, postérieurement, il y aura des actes de propriété, des livrets fonciers, il y aura moins de soucis que de traiter avec des particuliers.
Qu'est-ce que vous attendez, Sofiane Ouab, justement, de cette première édition? On a toujours la pression, quand c'est la première édition, le premier salon, donc vous ouvrez là, effectivement, une série de rendez-vous. Qu'est-ce que vous attendez de ce premier rendez-vous?
Ce que nous attendons, déjà, c'est que la rencontre se passe bien et que les visiteurs viennent en masse. Je voudrais insister que la principale motivation de cette première édition, justement, c'est d'informer. Puis derrière, bien sûr, c'est une opération commerciale. Il faut dire aussi que nous arrivons avec 2500 logements neufs à vendre, donc, et sur toutes les wilayas. Vous avez Alger, Béjaïa, Oran, Constantine, Eindhoven, Rivizen. Voilà, donc nous arrivons quand même avec un parc immobilier assez important et je pense qu'il y aura pour les goûts de tout le monde.
Oui. Sina Paris, le premier salon de l'immobilier, neuf Algériens en France, c'est la première édition. Ça se passe donc le 28, le 29 et le 30 à l'espace Charenton dans le 12e. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent pour ce rendez-vous?
Soyez nombreux à venir nous visiter, soyez nombreux à venir et nous vous attendons, nous essaierons d'être à la hauteur de vos attentes et nous essaierons de répondre au maximum à vos questions et voilà. Et on vous donne rendez-vous donc les 26, 29, 30 octobre à l'Espace Charenton dans le 10e.
Vous êtes co-organisateur donc de cet événement, Sofiane Ouab. Oui. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et au plaisir, bon courage pour cette première édition. Nous allons marquer la pause pub. Enfin, pause tout court d'ailleurs. Et je voudrais vous soumettre, vous savez quoi, ce sujet. Eh bien, la déclaration choc qui a été très commentée, justement, d'Éric Zemmour ce matin sur CNews. Il dit la chose suivante. Les Français de souche ont quitté les banlieues. Même les immigrés qui veulent éduquer leurs enfants à la française la quittent. Comment vous comprenez ça? C'est vrai que j'ai envie d'en discuter avec vous. 0153 48 3000, je vous attends partout en France. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h19, c'est votre moment à vous. D'ailleurs, c'est le moment vous concernant, c'est durant tout l'horaire. 0153 48 3000 jingle.
0153 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Allez, je vous attends partout en France. Je voudrais partager ça avec vous. Cette déclaration, vous savez quoi, choc, qui secoue les réseaux sociaux. Éric Zemmour il a fait une déclaration sur CNews. On va retrouver un extrait. Justement, on va le diffuser. Vous allez l'écouter et vous allez me dire ce que vous en pensez. 0153 48 3000. Je vous attends là, maintenant, vraiment, parce que paraît-il que les Français de souche ont quitté les banlieues. Enfin, moi, les Français de souche, j'en ai vu. Hein. Et ils sont un paquet à rester en banlieue. Très honnêtement, je ne comprends pas, comment dirais-je, son orientation. Même, alors ce qui me surprend, c'est que ce qu'ils disent par la suite, même les immigrés qui veulent éduquer leurs enfants à la française, la quitte. Ça veut dire quoi, les immigrés qui veulent éduquer leurs enfants à la française? Faudra qu'Éric Zemmour m'explique, effectivement. Vous comprenez, vous, ou pas? 0153 48 3000. Je veux vraiment qu'on échange ensemble. Là, tout de suite, au standard, il est ouvert. 01 53 48 3000. Je vous attends là, maintenant, tout de suite, évidemment, pour converser avec vous, avoir votre point de vue, avoir votre réaction, avoir votre sentiment. Je vous avoue que, est-ce que Éric Zemmour tente de déstabiliser les quartiers populaires? C'est ça que je veux comprendre, moi. Est-ce que, ça y est, ça revient, Éric Zemmour revient, il a rien à faire, donc il se dit oui, j'ai fait le tour de la question, je vais taper sur la banlieue. Franchement, bon, venez en parler, en direct dans les informés, justement. 01 53 48 3000. Je vous attends maintenant. Je ne bouge pas. Partout en France, chers amis. Partout en France, je voudrais vous entendre. Parce que ça, c'est surprenant quand même, ce type de réaction. Farid, il nous appelle du 93. Quelle ville du 93, Farid ? Bonjour, Farid. Farid, vous êtes là ? Non.
Peut-être moi ?
Ah non, c'est qui ? Farida, pardon, Farida. Farida, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de quelle
oui,
ville, Farida ?
Alors, je suis 93.
Quelle ville ?
Exactement de Bobigny.
Bobigny. Vous faites quoi dans la vie, oui. Farida ?
Alors, je travaille dans la restauration collective.
Bon, ça se passe bien ?
Oui, ça va plutôt bien.
Comment ça vous fait réagir, ces déclarations-là, franchement, d'Alex Zemmour ? Il n'a rien à faire d'autre, non ?
Bah, écoutez, moi, je suis un petit peu...
D'accord avec lui.
Concernant, alors je suis en plus d'origine algérienne qui n'a pas grandi. Vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Alors, parce que j'ai un retour, c'est un peu désagréable.
C'est peut-être votre retour à vous, la radio.
Oui, c'est ma radio.
Ben, faut l'éteindre.
Je suis en haut-parleur.
Faut l'éteindre un peu. C'est pour ça que vous entendez parler.
Exact.
Allez-y,
donc,
Farida.
Oui, je vous disais, moi, j'ai grandi en banlieue.
Oui.
Et je suis arrivée très jeune en France. J'ai deux enfants.
Oui.
Que j'ai inscrits en école privée depuis tout petit.
Oui.
Donc, dans des écoles catholiques. Et au jour d'aujourd'hui, mon fils travaille dans des... il est adjoint... dans la vente dans des marques assez prestigieuses.
Oui.
Et par exemple, il me donne des exemples de petits jeunes de banlieue quand il lui arrive de faire des entretiens.
Mmh.
Il recherche du personnel. Et il est désemparé. Il me dit, maman, c'est incroyable, un petit jeune qui vient de banlieue ne sait pas formuler une phrase correctement.
Oh là
là. Avec un sujet, verbe, complément.
Oh là.
Il me dit des fois, je suis gênée de dire que c'est quelqu'un de chez moi. Donc c'est un petit peu... Je comprends ce genre de parents qui se déplacent de la banlieue. Moi personnellement, dans ma famille, j'ai des sœurs qui déménagent de la banlieue pour donner une éducation, qui sont partis pour certaines...
Donc vous donnez raison en partie à Éric Zemmour, finalement.
Pour l'éducation, oui, bien sûr.
Pour l'éducation, pourquoi on doit quitter la banlieue pour mieux faire ? C'est ça qui m'échappe,
alors,
moi. Il faut m'expliquer.
Alors, pourquoi ? Parce que je trouve que les parents d'aujourd'hui démissionnent vraiment de leur rôle de parents.
Oui.
Nous habitons toujours dans le 93... Mon fils habite dans Paris Centre. Paris, vraiment les beaux quartiers, parce qu'il ne supporte pas de prendre le RER B.
Mmh.
Après, il a le bus, ou
ouais.
Alors il a le métro.
Ouais.
Sauf qu'il lui est arrivé d'être acquitté, parce qu'il n'a pas la petite tête du petit robeux. Excusez-moi du terme.
Vous savez que ça va faire réagir, ce que vous dites, hein?
Ah oui, je suis certaine que ça va faire réagir. Mais il y a énormément de parents qui ne gèrent plus du tout. C'est pas parce qu'ils démissionnent réellement, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs enfants. Leurs enfants sont devenus des bombes à retardement.
Bon, Farida, c'est très intéressant ce que vous dites. Et finalement, ça donne en partie à Éric Zemmour, évidemment, sa déclaration de ce matin qu'on va diffuser tout de suite, cet extrait. Farida, merci. Merci, évidemment.
Bah,
vous savez que ça va provoquer un vif débat.
J'espère que notre communauté va réagir surtout par rapport à leurs enfants. Parce que moi,
ouais,
il m'est
ouais.
arrivé des choses. J'habite j'habite à Bobigny, mais pas forcément dans un quartier cité. C'est plutôt pavillonnaire. Des fois, on se réveille le matin, et il me manque un rétro, un phare...
Un rétro et un phare, il vous manque ? Bon.
Oui.
Non, mais je veux qu'on prenne le temps d'en parler. On va en parler. Non, il faut qu'on parle de tout ça.
Oui.
C'est très important.
Et quand ça arrive, je travaille à Anières, dans le 92, je peux vous assurer que certains quartiers, ils sont super bien surveillés. Il y a des caméras partout. Et ce genre de choses n'arrive jamais.
Bon, Farida, on va installer le débat. Partout en France, les lutteurs vont réagir. Beaucoup, énormément d'appels.
Farida,
merci d'être intervenue. On va accueillir Farid du 91, mais avant, je voudrais vous diffuser cet extrait d'Éric Zemmour sur CNews. Écoutons.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les Français ont quitté les banlieues. Parce que justement, ils ne supportaient plus les Français de souche. Les Français de souche. Et même, d'ailleurs Guy lui l'explique très bien.
Parce qu'il y a plein de Français dans les banlieues.
Même les immigrés, en particulier du Maghreb, qui veulent éduquer leurs enfants à la française, quittent ces banlieues. Parce que c'est absolument insupportable et que le mode de vie n'est plus un mode de vie français, mais un mode de vie islamique, avec les boucheries halal, avec les femmes voilées, etc. Donc...
Bon. Farida, finalement, ce qu'elle disait, c'est... Moi, je suis très surpris. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que je veux qu'on prenne le temps d'en parler. C'est un sujet qui nous concerne, les amis. Partout en France. Farid, bonjour.
Bonjour, tout le monde.
On vous écoute, Farid. Vous faites quoi dans la vie ?
Moi, je suis cariste. Je travaille dans la logistique.
Et vous habitez où ? Quelle ville du 91 ?
J'habite à Massy.
Massy, on vous écoute, Farid. Court et précis, s'il vous plaît.
D'accord. Alors, en fait, je ne pense pas que c'est l'environnement qui fait qu'on est bien ou pas bien. Parce que là où je travaille dans la logistique. C'est pas forcément qu'il y a des étrangers qui font le ménage, qui travaillent dans la manutention. Il y a aussi des Français. Donc, c'est pas vrai. Et c'est toujours nous, les Maghrébins, qui disons, voilà, je quitte la banlieue pour être avec les Français. À l'étranger, moi, je suis Marocain. Les retraités français au Maroc, ils disent pas voilà, je vais quitter les Français pour aller vivre avec les Marocains. C'est que nous qui avons ce discours-là de fuir notre propre communauté, en fait.
Ouais.
Et, rien à voir avec...
Ce que disait Farida, ça vous surprend ou elle a raison ?
Non, elle a pas raison, parce qu'après, on va prendre du cas par cas, voilà. C'est,
ouais.
Voilà, elle a pris l'exemple, voilà, de son fils, voilà, qui est bien, et après, elle a pris un autre fils qui n'est pas bien. Mais c'est pas comme ça qu'on fait des comparaisons, en fait.
Bon, Farid, un autre son de cloche vous concernant. Merci d'être intervenu, Farid.
Merci à vous. Merci.
Tiens, on va aller à Saint-Étienne. On va accueillir Laïla. Bonsoir, Laïla. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laïla?
Je suis professeure d'anglais dans un établissement public et j'ai fait toute ma vie dans un établissement public. Et j'ai mis mes enfants dans les établissements publics. Et vive la variété française. Et c'est ce que la très chère Farida n'a pas compris. Et je remercie Farid pour le coup de son intervention qui est sensée, qui est très bien. Il faut arrêter les clichés, Farida. L'école privée, ça ne veut plus rien dire, hein, ma grande. Hein. Et les écoles privées, ça ne veut absolument rien dire. Dans une école... Ah non, mais franchement, je bondissais, je suis en train de rouler, j'ai mis mon, vous savez, le Bluetooth et tout, je suis en train de bondir. Mais c'est quoi ces clichés ? Mon fils, il a fait l'école privée, il a réussi. Non mais madame, vous avez dit que votre fils très bien et c'est tout à votre honneur, mais arrêtez avec les clichés. La France, c'est quoi ? Une identité, c'est quoi ? Une identité, c'est composé de plusieurs choses. Il faut arrêter de dire, mon fils, je l'ai éduqué à la française. Non, non, madame, vous avez éduqué tout simplement votre fils. Je suis d'origine tunisienne. Les Tunisiens en Tunisie que je connais se saignent pour l'éducation de leur enfant, parce que leur enfant, c'est important. Moi, j'ai des familles, malheureusement, qui sont très, très pauvres, mais qui paient ce qu'on appelle des études pour que leurs enfants y arrivent. Donc, faut arrêter maintenant de dire à la française, arrêtez d'avoir honte de nos origines. Ouais. Arrêtons d'avoir honte de nos origines. Je suis tunisienne, je suis française, je suis fière de mes doubles cultures, mais vraiment, ouais, comme pas possible. Quand mes élèves, je leur dis, soyez fiers.
Laïla, on n'a pas fait exprès. Hein. On a fait l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. C'est ça, la belle diversité de Beurre FM.
Exactement. Toute soyons fiers, arrêtons d'avoir honte de qui nous sommes. Mais on va jamais y arriver sans faire nous les coudes. Certes, en banlieue, c'est difficile, mais au moins là-bas, les jeunes, ils apprennent la vraie vie. À nous, effectivement, de surveiller nos amas. Quand un enfant à 9 ans sort dehors, c'est pas normal, et peu importe ses origines. Il y a des Français, malheureusement, qui sont perdus. La dernière fois, avec Cyril Lignac, je sais pas comment il s'appelle, le monsieur de la télévision, c'est une famille française qui avait 10 enfants et qui néglige ses enfants. Arrêtons, il y a du mal partout.
Vous êtes remontée, madame
professeure. Ah ouais, mais franchement... Mais franchement, c'est honteux ce qu'elle a dit. Mon fils, il a fait du privé, donc il a réussi. Non, mais attendez, venez voir, nous, au moins, dans le public. J'ai envie de dire 80% des profs, on a notre CAPES. Bon. C'est un concours qu'on passe. Dans le privé, c'est pas forcément le cas. Tu arrêtons, quoi, dans le privé.
Non, c'est la raison d'exprimer.
Non, on réussit quand on veut. Bon. On réussit quand on veut réussir. Aux enfants de réussir. Aux enfants de leur donner des valeurs. Point à la ligne. Et arrêtons de. Il faut qu'ils soient fiers de leurs parents. Il faut qu'ils soient fiers de leurs origines. C'est ça qu'il faut leur donner aux enfants.
Merci, Laïla.
Point à la ligne.
Point à la ligne. Vous avez raison et vous l'avez exprimé. Et vous l'avez bien fait. Restez à l'écoute, Laïla.
Au plaisir, à très bientôt, au revoir.
À très bientôt. Beaucoup, je vous le disais, énormément d'appels au standard, 01 53 48 3000. Tiens, on va aller à Valenciennes. Amine, bonjour.
Bonjour, bonjour, comment allez-vous?
Très bien, mon cher Amine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Amine?
Moi, je suis cadre dans l'industrie pharmaceutique.
Aïe, 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 il y a du boulot, hein? On vous écoute, mon cher Amine.
Algérien d'origine, j'ai grandi en Algérie, j'ai eu une éducation algérienne, purement algérienne, et deux parents de souche algérienne. En gros, j'ai vécu toute mon enfance, toute mon adolescence, ma jeunesse, tout ce que vous voulez, en Algérie. Je suis arrivé en France il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire une dizaine d'années. Donc, j'ai mes racines en Algérie, j'ai toute une éducation algérienne rebeuse, comme elle a dit la dame, Madame Farida. Donc, je suis un rebeu de souche et je suis fier de l'être.
Mais alors, comment vous réagissez, évidemment, face à ce qu'a dit Éric Zemmour ce matin sur CNews, que...
Franchement, sincèrement, oui. C'est mon avis personnel. C'est juste un guignol. Il veut juste faire le buzz comme il a fait
réalité,
auparavant.
Il y a une réalité, Farida, la preuve, elle l'a dit tout à l'heure.
Oui,
il y a des Français, il y a des franco-maghrébins qui veulent, pour éduquer leur enfant à la française, quittent la banlieue.
Et vous croyez que c'est la raison pour avoir une bonne éducation? C'est de les éduquer à la française.
Oui.
Pour moi, il n'y a pas d'éducation à la française ou à la rebeuse.
Oui.
Ou à l'Algérien, ou à l'Arabe, ou peu importe ce que vous voulez.
Bon.
On est bien ou on est mauvais. Qu'on grandisse en banlieue ou dans la Provence, c'est pareil pour moi.
Allez, bah écoutez, on va faire le tour. On va regarder tout ça. Merci Amine de Valenciennes.
Bon courage et bonne journée à vous.
Merci. Bonne soirée. Debia, vous nous appelez de quelle ville du 78, Debia?
Alors, du PEC. Du PEC.
Ah, du PEC, le PEC. Oui, c'est voilà. Bon, c'est bon, je vois. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Debia?
Je suis auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées.
Très, très bien, ça. Ça, bravo à vous. Debia, on vous écoute.
Alors, je voulais intervenir et dire, la dame, la professeure d'anglais qui est intervenue, je trouve qu'elle a bien parlé. Tout à fait, monsieur, l'éducation n'a rien à voir avec les origines.
Oui.
Toutes les origines, on peut donner
un bon éducation. Des quartiers populaires.
Rien du tout. L'éducation, c'est dans le milieu familial. Après, voilà. Moi, j'ai des enfants qui sont nés en Algérie. Nous sommes arrivés en France. Mes enfants ont fait des études normales. Donc, on a habité dans un HLM, dans des quartiers normaux. Et mes enfants n'ont jamais été en école privée. Et j'en ai qui ont des doctorats et d'autres qui ont des masters et tout. Et il suffit de donner une bonne éducation. Et l'éducation, oui. C'est dans la famille.
Dans la famille. Merci, voilà. Damien. Merci.
Je vous en prie. Au revoir.
Au plaisir. Sabrina de Pierrefitte. Bonjour, Sabrina.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Voilà, vous faites quoi dans la vie, Sabrina?
Moi, je suis bancaire. Je travaille dans une banque.
La finance.
Ah, voilà.
Alors, Sabrina, on vous écoute alors. Qu'est-ce qui vous heurte?
Il me heurte. La personne qui a parlé, je pense qu'elle confond éducation... Et à la française. Zemmour, il veut nous simuler en tant que Français. Ça veut dire quoi? À la française. Moi, je suis venue d'Algérie à l'âge de 21 ans. J'ai travaillé. J'ai fait grandir mes enfants. Ils sont cadres tous les deux. J'ai habité en banlieue. Et au milieu de banlieue, en banlieue, ils ont grandi. C'est à elle d'éduquer ses enfants. Point barre.
Point barre.
Il n'y a pas à la française. Ça veut dire quoi à la française?
Bah, c'est pour ça que j'ai ouvert le micro, c'est pour ça que j'ai ouvert le standard. J'ai envie de comprendre, ça veut dire quoi?
Ça veut dire
j'avais Jacques, envie de vous entendre.
Oui, Jacques Roumain et ainsi de suite, à la française. Ouais. Moi, j'ai pas besoin d'aller changer de quartier pour éduquer mes enfants. Nos enfants sont très, très bien éduqués. On n'a pas besoin de Zemmour. Et Zemmour, il veut simplement, il n'aime pas les musulmans. Point. Il faut le comprendre et savoir traduire ce qu'il veut dire.
Bon, je ne sais pas s'il n'aime pas les musulmans. Bon, ça, il faudra lui poser la question. Merci Sabrina de Pierrefitte.
Non, mais il faut pas tomber dans le piège, parce que de toute façon, éducation, échanger de bons lieux pour élever ses enfants, ouais, ça, c'est de la connerie. Il faut bien qu'elle comprenne ce que ça veut dire à la française.
Ouais. Bien, vous parlez tous à Farida, là, effectivement. Merci Sabrina.
Je vous en prie. Merci, bonne soirée.
Je vous le disais, 01 53 48 3000. Je vais m'efforcer de prendre un maximum de coups de fil. Hein. Sofiane de Créteil. Bonjour Sofiane.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Très bien, mon cher Sofiane. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille dans un restaurant au pavillon à Paris 12. C'est une chicha, pavillon.
Ça fenêtre, se passe bien?
C'est
Sofiane,
nickel.
On vous écoute.
Ben, franchement, on ne va pas se mentir, il a un peu raison, en fait.
Il a un peu raison, vous êtes comme Farida. Alors, dites-nous. Voilà.
Non, je ne suis pas comme Farida. En fait, il a un peu raison quand il dit... En fait, ça, c'est notre but à tous, de sortir du quartier. Mm. Ouais, mais c'est vrai, il ne faut pas se mentir. J'aimerais bien que mes enfants grandissent dans un cadre bien, quoi. Pas entassé dans un bâtiment à 20 étages.
Je comprends. Qui fait ghetto, quoi.
Voilà. Sur ça, je suis d'accord. Après, sur l'autre truc, éduquer nos enfants à la française, ça, j'ai pas compris. Mm. Ça, sur ça, je comprends pas. Après, on connaît Zemmour. Hein. On connaît, il est là pour...
Mais vous dites tout de même qu'il y a cette volonté de vouloir quitter le quartier pour mieux donner aux
pour
enfants.
Pour mieux vivre. D'une, après, pas pour éduquer les enfants. Les enfants, on les éduque depuis qu'ils sont petits. Hein. Qu'on peut être dans une jungle ou n'importe où. L'éducation, ça c'est la base pour tout le monde. Mm. Après, on éduque nos enfants, le bien, on montre le bien, le mal, tout ça, ça c'est la logique.
Eh bien, merci Sofiane, ça va faire réagir ce que vous dites.
Voilà.
Merci à vous.
Bah, je te remercie.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Et n'hésite pas de passer au pavillon, la chienne est super bonne et on mange super bien aussi.
Ça marche.
Même l'humour, il peut passer. Hein.
Merci de l'invitation. Attention, hein. On viendra. Bilal. Bilal, bonjour. Bonjour, oui. Bonsoir, Bilal.
Bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville?
Bilal de Vitry. Vitry-sur-Seine, c'est dans le 94.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bilal?
Je suis manager d'équipe informatique.
Bougez pas, Bilal. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. 01-53-48-3000 et on se retrouve avec le face-à-face. Allez, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h44, je vais prendre Bilal et ensuite après on va s'attaquer au face-à-face et je continuerai, voilà, au cours de l'émission de prendre vos appels au 01 53 48 3000 puisque vous êtes très très nombreux à vouloir réagir. Bilal, ça va Bilal?
Oui, très
tout
bien.
Cadre. Allez, je vous écoute Bilal, qu'est-ce qui vous fait réagir?
Donc, moi, j'aimerais rappeler à tous les auditeurs et au plateau que M. Zemmour a été sanctionné dans les urnes par les Français. Mmh. Il a été sanctionné parce que c'est un grand illusionniste et les gens s'en sont rendus compte. C'est-à-dire c'est un intellectuel qui a fait de longues études et qui manipule les gens avec ses mots. Il parle de la France. La France, c'est le pays de Descartes. Donc il faut être cartésien, il faut analyser. Mmh. Il dit, voilà, les gens quittent les banlieues parce qu'ils veulent une éducation à la française qui n'est pas présente en banlieue. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, éducation à la française? Ça veut dire que seuls les Français savent éduquer les gens. C'est-à-dire quand on sort de la France, les Anglais, les Allemands, les Chinois, ils sont mal éduqués. On dirait qu'il n'y a qu'une seule éducation qui existe, c'est la France. Mmh. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il dit que même les Français d'origine maghrébine quittent les banlieues pour mieux élever leurs enfants.
Ouais. Et certains éducateurs ont dit ça, oui.
Voilà. Ensuite, il dit parce que oui, effectivement, en banlieue, il y a l'islamisation, il y a les mosquées, il y a les boucheries halal. Donc là encore, il manipule les gens parce qu'il commence à parler. Il dit les gens quittent. On sait pourquoi on quitte. Les gens qui quittent les banlieues, ils la quittent parce que la banlieue est pauvre. Et dès qu'ils ont les moyens, ils quittent la pauvreté, ils quittent la précarité. Mmh. Quand les Français, qu'ils soient de souche, maghrébins ou toutes les origines, vont à Dubaï. Mmh. Dubaï, il y a des mosquées, il y a des boucheries halal. Pourtant, les gens rêvent d'y aller, d'y vivre. Ce qui prouve que le problème dans la banlieue, c'est la précarité. Mmh. C'est pas l'islam. Et c'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Et c'est pour ça que moi, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce qu'il dit, qu'elles soient pro-Zemmour ou pas, à prendre du recul, à analyser pour voir au final que cet homme-là, c'est pas du tout l'ami de la France. c'est l'ennemi de l'islam, parce qu'en réalité, peu importe qu'on soit musulman, laïque, juif, peu importe, c'est pas, le débat il n'est pas là. Le débat est que c'est quelqu'un qui s'attaque systématiquement à la même cible, mais il utilise des subterfuges pour montrer que non, il défend la France, qu'il est en train de défendre la France, alors que non, il n'est pas en train de défendre quelque chose, il est en train d'attaquer une autre chose. Parce que, comme je vous l'ai montré là, avec plusieurs arguments, de ce qu'il dit n'a aucun sens, n'a aucune cohérence.
Merci Bilal pour cette pertinence, effectivement, de nous avoir appelé un certain nombre de choses. Merci Bilal. Vous savez que je vais, on est inondé de coups de fil, vraiment. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'appels. Je vais, dès demain aussi, remettre sur le sujet, sur le tapis, pardon, le même sujet, et on va en parler, on va échanger. Mais il faut absolument, parce qu'il faut que j'avance, le face-à-face nous attend. Il y a Philippe Nadjibouriaki et Emmanuel Dupuis. C'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Emmanuel Dupuis, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour.
Qu'est-ce qui vous fait rire?
Alors déjà, je suis heureux de retrouver Philippe.
Oui.
C'est un vrai plaisir de le retrouver parce que je le trouve en forme. Il est passé par des épreuves douloureuses, il faut le rappeler. Il s'en est très bien sorti, il revit.
Il est en costume cravate.
Il renaît. Renaît et les mots ont leur importance. Et je suis très heureux de l'avoir. Et puis je suis toujours très heureux d'être sur ce plateau. Vous savez que je fais beaucoup de plateaux. Mais c'est toujours un immense plaisir de venir à Beurre FM.
Oh là là, c'est touchant. Merci Emmanuel Dupuis pour cette déclaration.
D'amour. C'est sincère.
Qu'est-ce que c'est beau.
Bien sûr que c'est sincère.
Philippe Nadjibouriaki, tout beau gosse, cravate, bleu, costume, la classe.
Il faut mettre la vidéo pour que les auditeurs le voient.
Oui, exactement. Ça va ? Conseiller régional,
l'écologie au centre, porte-parole nationale.
Absolument.
Moi aussi, je suis très ravi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas retrouvé mon ami Emmanuel. Il était très occupé ces derniers temps. Je suis vraiment ravi d'être là. Je parlerai beaucoup moins que lui parce que, comme je l'ai dit, je suis très admiratif de son savoir, de son rayonnement, des choses.
Ah, il brille, hein. Attention. Hein.
Je dirais même, il a vulgarisé la géopolitique pour le commun des mortels. Qui jusqu'à présent était.
Quand il écoute, on le comprend.
Voilà.
C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire.
Voilà, avant, c'est réservé.
Je le prends.
Il a ouvert à tout le monde. C'est un énorme plaisir. Et je l'ai vu ces derniers temps. Il a fait des prédictions il y a quelques mois où tout le monde se moquait de lui, entre guillemets, et ses prédictions sont avérées exactes.
On va voir s'il est toujours exact. Attendez, on va voir s'il est toujours juste. On va aller direction la Russie. Justement, on va parler de cette mobilisation partielle en Ukraine. Les Russes qui défient Poutine dans la rue. On parle de plusieurs centaines d'arrestations, 1400 au total. On parle aussi évidemment d'une grosse actualité. Alors, menace, pas menace, menace nucléaire. Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il compte faire? Comment il veut redessiner, évidemment, cette guerre qui bascule? Emmanuel Dupuis.
Bon, déjà, il faut rendre hommage, et je pense qu'on sera d'accord avec Philippe, à ces très courageux Russes, jeunes,
c'est vrai.
Moins jeunes, mères de famille, sœurs, pères, frères, qui risquent d'avoir leur famille obligée d'aller combattre un combat absolument inique, voire cynique même, sans qu'on en comprenne encore la cohérence. Et donc, il faut avoir une pensée pour ces 1400, je pense qu'on a un peu plus d'ailleurs. Pour l'instant, les chiffres qui sont officiellement mis en avant, c'est 1400 personnes qui ont manifesté et quasiment autant d'arrestations. Donc, courage de descendre dans la rue quand on connaît la manière dont la communication ne passe pas littéralement entre les citoyens russes et le leadership russe, c'est particulièrement important. C'est très inquiétant aussi. Ça veut dire qu'on a basculé dans autre chose.
C'est ça, c'est pour ça que je parlais du basculement.
Il y a 300 000 jeunes russes, enfin jeunes, entre 18...
300 000 réservistes.
Réservistes. En fait, pour que les choses soient claires pour les téléspectateurs, pour les auditeurs, pardon, être réserviste, c'est juste avoir fait son service militaire. Ça ne veut pas dire qu'on a un lien ou une appétence pour le métier des armes. Tout jeune citoyen qui avait 18 ans doit accomplir son service militaire. Donc, c'est quand même quelque chose qui va rendre la perspective de la paix plus difficile à obtenir, qui va rendre la situation de guerre que connaît ce pays, l'Ukraine, dans une logique de prolongation, alors qu'on aurait espéré quand même qu'on aille vers une perspective donc qui amène au moins à un début de négociation. On s'éloigne de tout ça, donc c'est assez triste, c'est assez grave. On reviendra sur le risque nucléaire, moi-même.
Mais les Russes sont inquiets. Dans 38 villes, au total, des citoyens inquiets, mais aussi furieux du cours donc de la guerre et de la tournure que ça prend.
Alors, officiellement, il n'y a toujours pas de guerre hein, dans la dialectique russe. On est toujours dans une opération militaire spéciale, une mobilisation partielle, 300 000, alors qu'il y a théoriquement 2 millions de réservistes identifiés comme tels, et que si on est dans une levée en masse, là on atteint des chiffres, c'est 25 millions, même, peut-être même 30 ou 35 millions, certains disent 40, jusqu'à 45 millions, de 18 à 65 ans. Donc c'est autre chose. Alors encore une fois, il faut avoir une pensée pour les Ukrainiens, parce que les Russes qui vont combattre ne sont pas forcément conscients de ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas trop le choix. D'ailleurs, vous en avez fait mention, il y a une augmentation exponentielle des Russes qui veulent quitter le pays, mais encore une fois, ne pas se tromper. Ceux qui peuvent quitter le pays, c'est ceux qui ont les moyens de le quitter. Parce qu'à l'heure où nous parlons, un billet d'avion pour quitter la Russie, c'est 3 000, 4 000 euros. Donc tout le monde ne peut pas se permettre. Donc, ben voilà, ça prouve que le régime russe est un peu fragilisé. Et pour conclure mon propos, tout ce que nous sommes en train de vivre est la preuve que Vladimir Poutine n'a pas obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il est en train d'échouer dans son opération militaire spéciale. C'est le seul élément positif.
Il est en train d'échouer.
Ah oui, parce que sinon
son opération militaire.
Sinon, il n'aurait pas eu besoin de mobiliser 300 000 hommes. Si il arrive le 21 février en disant qu'il va intervenir pour répondre, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais je ne fais que paraphraser ce que Vladimir Poutine avait dit à cette occasion en disant qu'il est là pour défendre, entre guillemets, de nouveau, les populations donc des régions séparatistes qui ne reconnaissent plus la légitimité de Kiev. Si, au bout de 7 mois, bientôt, alors qu'il avait engagé 150 000 hommes, il est obligé d'engager 300 000 hommes, il ne faut pas être sorti de Polytechnique, autorisez-moi cette expression, pour voir quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est une preuve d'aveu, c'est un désaveu.
D'échec.
C'est une preuve d'échec et c'est surtout une grande preuve de fragilité.
Donc, Poutine, fragilisé.
Oui.
Oui.
D'un mot, oui.
Philippe Nagy-Bouriaki. Je suis
complètement d'accord avec l'analyse que vient de faire Emmanuel. Le seul problème, c'est quelqu'un qui est fragile, qui a acculé et qui commence à paniquer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? À ce moment-là, est-ce qu'il ne peut pas faire l'irrémédiable? On y pense tous, on en parlera, il en développera tout à l'heure. Mais effectivement, il a raison. Tout le monde pensait que ça allait être une guerre éclair, que ça allait se plier en 3 mois. Force est de constater que, au contraire, les Russes sont obligés de se reculer. Ils accumulent défaite sur défaite sur le front du Donbass, alors qu'ils avaient infligé une violente opération. Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, depuis hier, les billets d'avion ont explosé. T'as plein de gens qui sont à l'aéroport qui veulent partir et voir la population qui descend. Parce que c'est pas pareil d'avoir des professionnels aguerris au combat et puis d'un coup on t'appelle, on te dit ton fils de 20 ans va falloir qu'il y aille. Une mère russe, c'est comme une n'importe quelle mère dans le monde. Forcément, elle monte au créneau pour protéger la vie de son fils. C'est évident. Mmh. Et ça veut dire autre chose. C'est-à-dire que les gens qui y vont, ils y vont pas par conviction, là. Ils y vont avec la boule au ventre. Mmh. Et donc, il va y avoir encore plus de morts, plus de désertion, voire même des gens qui vont faire des mutineries internes. C'est un scénario catastrophe. Et ma crainte, c'est qu'en voyant qu'il commence à perdre la face, est-ce qu'il n'est pas prêt à appuyer sur le bouton? Je pense que les militaires sont quand même censés raisonner et qu'ils ne laisseront pas faire.
18h55 précisément, on marque une pause, on se retrouve tout de suite après avec vous, y compris au 01 53 48 3000. Je vous ai dit, hein, vraiment, demain, on va reconduire ce même débat, ce même sujet, les amis auditeurs, parce que vous êtes très nombreux à vouloir réagir et je vous en remercie infiniment. On se retrouve tout de suite après pour continuer de parler de la Russie avec Philippe Nagy-Bouriaki, mais également aussi Emmanuel Dupuis, parce qu'on ira aussi direction l'Iran, où la colère, elle traverse les classes sociales. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Emmanuel Dupuis. Les informés, c'est avec Philippe Nagy-Bouriaki, mais également aussi vous au 0153 48 3000. Messieurs, nous allons aller direction l'Iran, la manifestation en Iran, la colère qui prend de plus en plus d'ampleur, y compris les classes sociales. C'est inédit ce qui est en train de se passer, Emmanuel Dupuis.
Oui, oui.
Oui, on parle bien de la mort de Mahsa Amini. Hein.
Ça a été un électrochoc. Ça a été un électrochoc
qui a suscité une vague de protestations.
Non pas que ce soit la seule hein, qui tombe sous les balles et sous la violence du régime des Mollahs, mais c'est inédit par l'ampleur que ça prend. C'est inédit par l'éparpillement dans tout le pays et ça ressemble un peu à ce qu'on avait vécu en 2009 quand il y avait eu comme ça des manifestations spontanées qui avaient été réprimées. Donc premièrement, de nouveau, rendre hommage aux jeunes Faïs qui quittent le voile et qui brûlent leur voile, ça c'est important, leur foulard, pardon, se rendent compte que là aussi le régime pourrait être éminemment fragilisé, donc être aux abois de la réponse que pourrait être celle d'un régime aux abois, tout comme l'a dit Philippe en Russie. La bête, une bête blessée est incontrôlable, au sens propre du terme. Blessée dans son amour propre et blessée physiquement. Bon. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas des classes défavorisées qui manifestent, c'est toutes les classes sociales, avec un vrai problème sociétal d'une société un peu sclérosée qui a besoin d'une soupape. Bon, ben, cette soupape, c'est cette volonté de s'exprimer dans un carcan théocratique, religieux, trop fort, trop prégnant. Donc ça explose.
Ça explose. Vous partagez ?
Mais complètement. Le cocktail détonant, en vérité, c'est depuis plusieurs années, l'Iran est sous embargo, même si il y a...
Il y a des sous-embargo de nouveau, oui.
Ouais, voilà. On sait qu'il y a des ventes de pétrole via un marché noir, un marché parallèle, etc. On assiste à une jeunesse qui n'a pas connu la révolution iranienne. Et pourquoi il y a eu la révolution iranienne? Et qui est multi-connectée et qui voit le monde évoluer à côté et qui ne respecte pas une rigueur qui leur impose des choses qui ne vont pas dans avec leur génération, qui a soif de liberté, qui a soif de démocratie. Et on a deux mondes parallèles. Un qui aujourd'hui a le pouvoir et qui le fait de manière ultra-autoritaire. Et cette jeune femme qui est morte, il faut le rappeler, parce qu'elle n'avait pas le voile correctement mis par rapport à cette police religieuse, est l'ingrédient détonant qui fait qu'aujourd'hui, on en assiste à des manifestations de masse de rue où des femmes brûlent leur voile en public. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus peur de ce qui pourrait leur arriver. Là où on pourrait se dire, si tu fais ça, tu as vu l'exemple, tu risques ta vie, là, on enfreint toutes les règles en disant, peu importe. Je veux vivre en liberté. Et on l'a vu dans d'autres pays, lorsque ça commence via la jeunesse, et Emmanuel a si bien dit.
D'ailleurs, les auditeurs, si vous voulez réagir sur ce sujet-là, n'hésitez pas, pardonnez-moi de vous interrompre. 01 53 48 3000. Je vous attends au standard. À tout de suite, effectivement, si vous voulez réagir.
Ça touche toutes les classes de la population.
Oui.
Et quand on dit toutes les classes de la population, on parle de gens qui pourraient être privilégiés, comme des gens qui sont dans une situation difficile.
Et la colère s'exprime, messieurs, vous savez où ? Sur les réseaux sociaux.
Mais impressionnant, impressionnant.
Et dans la rue aussi.
Et dans la rue. Et dans la rue aussi.
Sauf que l'Iran, vous savez quoi ? Ben, ils ont bloqué les réseaux sociaux.
C'était évident. Mais
voilà. Et les messageries.
Enfin, c'était bloqué déjà avant. Hein.
Là, depuis de plus en plus.
Facebook et compagnie, il fallait passer par un VPN.
Oui, mais en passant par des VPN, etc., ils vont réussir à contourner cette situation. Mais ça, ils pourront rien faire. Et donc, par conséquent, les gens pourront encore communiquer, diffuser. Et plus ils vont accentuer la répression, plus ça va accentuer la colère de la rue. Elle est là. Oui. C'est quelque chose qui peut vaciller, qui peut aller très, très vite. Alors, on parle, j'ai vu des choses d'ingérence de services secrets de pays occidentaux qui veulent la chute du régime. C'est pas impossible qu'il y ait des associations qui œuvrent de l'intérieur pour pouvoir modifier les choses en leur faveur. Sauf que là, je pense que ça dépasse ce que quelque chose aurait pu être piloté par un État qui ferait de l'ingérence dans un pays autre.
Emmanuel,
cet argument-là de l'ingérence, c'est toujours l'argument que brandissent les régimes autoritaires en disant que c'est pas un problème sociétal, mais c'est un problème de l'extérieur. Hein, ça a toujours été le cas. La Russie le brandit aussi.
Bien sûr.
En évoquant le fait qu'elle ne combat pas l'Ukraine, mais elle combat l'OTAN ou l'Occident.
C'est ça.
Et elle minore, ou elle réduit à néant même l'existence même de l'Ukraine. Le gouvernement de Ibrahim Raisi, enfin, je précise d'ailleurs, en Iran, il n'y a pas que le gouvernement d'Ibrahim Raisi. Il y a le guide, Ali Khamenei, et il y a autour du pouvoir des religieux. Hein, et finalement, il y a au sein des religieux, des libéraux ou des moins libéraux. Mais le clan qui est au pouvoir actuellement, ce sont des conservateurs. Et effectivement, c'est assez facile de dire que c'est les services de renseignement israéliens, que ce sont les États-Unis qui poussent dans une logique où l'Iran est quand même au pied du mur. Si elle ne signe pas la proposition qui a été faite par la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et singulièrement la Russie et la Chine vis-à-vis du nucléaire iranien, eh ben, il n'y aura pas d'autre offre. Donc elle est un peu aux abois, de nouveau.
Est-ce que vous partagez les points de vue 01-53-48-3000? Et je voudrais aussi vous faire réagir sur les propos d'Éric Zemmour. Malika, Bonsoir, vous nous appelez de quelle ville, Malika?
Qu'est-ce qu'il a dit, Eric Zemmour? J'ai pas entendu.
Malika, je vais vous dire. Malika, bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, j'appelle de Caen.
De Caen. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Malika?
Je travaille dans les écoles. Je prépare des repas. Voilà, je travaille pour la ville.
Bon.
Pour
l'état de... Bienvenue, ma chère Malika. On vous écoute.
Voilà. Par contre, par rapport à Farida, ce qu'elle a dit, je suis pas d'accord avec elle.
Oui.
Parce que par rapport à la façon qu'elle a parlé... Enfin,
ah, vous faites référence tout à l'heure à la thématique concernant donc les propos d'Éric Zemmour. D'accord, je vous écoute.
Oui, voilà. Moi, je suis pas d'accord déjà avec nous. Hein. Déjà, on est mal vus, nos enfants. On les a fait grandir. Et ça, c'est vrai. Et en fin de compte, élever son enfant, on a tous une façon d'élever nos enfants. Elle a dit, j'ai grandi là-bas. Mais pourquoi qu'elle parle comme ça, son pays? Et nos enfants, on les fait grandir. On aime la bonté. Mmh. Mais, par contre, je ne suis pas tranquille. Enfin, nous, elle aime son pays. Et nos enfants, ils aiment notre pays. Parce qu'en fait, ils grandissent en France. C'est des Français, c'est pas avant tout.
Exactement. Bon.
Ouais. Moi, cette femme-là, quand j'ai entendu parler, ça m'a fait mal propre.
Eh bien, c'est dit. Vous avez eu raison d'appeler, de le dire et de l'exprimer. Vous l'avez exprimé. Merci. Voilà. Malika. Messieurs, tiens, une petite réaction nous concernant, parce que la déclaration, vous savez quoi, elle a provoqué un vif débat, c'est celle d'Éric Zemmour ce matin sur CNews. Il dit, je vous le dis, mais les Français de souche ont quitté les banlieues, même les immigrés qui veulent éduquer leurs enfants à la française la quittent. Bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre?
Alors, il a dit sur quel plateau? Sur CNews, je suppose.
CNews.
Forcément, logiquement.
Évidemment.
Voilà, il faut contextualiser quand même les choses. Bah écoutez, Éric Zemmour se recherche un rôle qu'il a perdu, puisqu'il n'est plus responsable politique. Enfin, il n'a jamais été, puisqu'il n'a pas réussi sa transformation ou sa transfiguration pour passer du statut de chroniqueur à statut de responsable politique. Donc, il est un peu dans la punchline.
Et c'est... attention, il reste président de Reconquête. Hein.
Oui, enfin, Reconquête n'a aucun élu. Ils ont fait combien 3-4%, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Ouais, voilà. Et ils n'ont pas fait mieux aux législatives. Donc, bien sûr
non, il a fait 7 et aux législatives 4.
Voilà, 7 aux législatives présidentielles et 4 aux législatives. Bon, et aucun député. Donc, c'est surtout ça l'important. Bien sûr que c'est un responsable politique. Enfin, dans ce pays, si vous n'avez pas un corpus idéologique qui est en cohérence avec votre maillage territorial, bah, ça ne marche pas. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas depuis la 5e République. Donc c'est un personnage public et qui a besoin de faire le buzz. En l'occurrence, le bad buzz. Donc évidemment, moi, je ne partage pas son point de vue. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans cette logique sclérosante de différenciation, de différentialisme. Souvenons-nous, parce que on a un petit peu la mémoire courte, il y avait eu aussi, de la part de certains ministres de l'Intérieur, l'idée qu'il y aurait une ghettoisation. Mmh. C'était un ancien ministre de l'Intérieur qui a ensuite volé sous d'autres cieux, Gérard Collomb, qui ensuite est revenu dans sa bonne ville de Lyon. Donc il faut faire très attention à la manière dont on réduit en fait à quelques exemples qui peuvent être réels, une généralisation. Et je crois que la vie politique mérite mieux que de prendre un exemple, sorte de saupoudrage, en disant voilà, cette réalité-là s'impose à tout le monde. Mmh. Comparaison n'est pas raison, Vladimir Poutine fait exactement la même chose, d'une phrase. Quand il dit... L'Ukraine est nazifiée. Bien sûr qu'il y a en Ukraine, comme ailleurs, des gens d'extrême droite. Ça ne veut pas dire que tous les Ukrainiens partagent ce point de vue. Bon, ben, c'est ce que j'ai envie de répondre à la phrase à l'emporte-pièce de M. Zemmour.
On va accueillir à Limoges Larbi, et je vous écouterai, Philippe Nadjiboyaki. Larbi, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Larbi? Bonjour, Larbi. Larbi, vous êtes
oui.
là? Oui, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Larbi?
Je suis commercial dans l'immobilier.
Bienvenue, on vous écoute, mon cher Larbi, alors.
Merci. Donc, du coup, moi, je suis de Limoges, donc du coup, je voulais intervenir pour... pas pour Poutine, hein, parce que moi, pour Poutine, c'est... pas pour Poutine, je veux dire, pour Zemmour, pour moi, c'est... il fait le buzz chaque fois, il connaît même pas son professeur. Moi, je voulais parler plutôt de Poutine.
Oui.
Et ce qui se passe en Ukraine, du coup.
Allez-y, je vous en prie. C'est le débat.
Allô?
Oui, je vous écoute.
Oui, Larbi, on t'écoute.
Allô.
Oui, on vous écoute, mon cher Larbi.
Ah, Larbi.
Oui. Ah ouais.
Vas-y, on t'écoute, Larbi.
Ouais. Donc du coup, moi, je vais parler de Poutine. Mm-hmm. Est-ce qu'il se passe sur l'Ukraine là? Donc du coup, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vos intervenants là, qui disent que Poutine est en difficulté. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est tout le contraire, quoi. Moi, je pense que c'est tout le contraire. À part que sa stratégie, elle a un peu, elle a un peu, comment dire, elle a un peu évolué, parce que Poutine, il a été surtout surpris par les Européens, la solidarité européenne. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, Poutine, il fait pas la guerre qu'en Ukraine. Il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, tout le monde est d'Ukraine. Donc si on regarde un peu ce qui se passe, Poutine, il a été surpris par ça, quoi, par l'alliance qu'il y a eu autour de l'Ukraine.
Oui.
Donc du coup, si on regarde les territoires que Poutine aujourd'hui a conquis, c'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, si on regarde les armées en Europe, aucun pays ne peut le faire.
Ouais. L'armée, on l'aura compris, vous n'êtes pas d'accord avec les débatteurs de ce soir.
Mais vraiment pas du tout, vraiment pas du tout. Et aujourd'hui, il fait une mobilisation partielle parce que il y a des armes qui sont livrées. Donc du coup, il a plus assez d'hommes pour tenir une région qu'il a conquise. Donc du coup, à chaque fois, il est obligé de bouger, de passer des troupes pour aller dans l'autre. Donc du coup, maintenant, avec ce qu'il appelle... Là,
vous voulez réagir?
Oui. Fais-moi un résumé de ce qu'il a dit.
Et il n'aura pas du coup avec le renforcement qui va faire appel à l'offensive qui va remener. Du coup, il ne pourra plus déplacer ses troupes comme il fait maintenant. Du coup, maintenant, il attaque à gauche. Il s'est attaqué à droite, donc du coup il n'a plus assez de soldats. Vous comprenez?
Ouais. Merci de votre intervention, Larbi.
Pas de problème.
Merci à vous, 01 53 48 3000. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Il est 19h10. Si vous venez de nous retrouver, l'Europe face au risque de l'extrême droite italienne. Messieurs, je voudrais qu'on se pose et qu'on analyse, vous savez, ce qui est en train de se passer. La Suède, l'Italie et d'autres aussi d'ailleurs. On est qu'à quelques jours des élections législatives en Italie. Et l'Europe a les yeux rivés, évidemment, un peu partout, pour observer cette poussée de l'extrême droite. D'abord, on la doit à qui et pourquoi, Emmanuel Dupuis?
Bon, alors déjà, vous avez raison, Adil, de rappeler qu'il n'y a pas que l'Italie. Hein, il y a deux semaines, les démocrates de Suède, qui portent très mal leur nom, puisque ce sont en fait des ultra-conservateurs, sont arrivés au pouvoir et ont chassé un pouvoir social-démocrate.
Mais vous savez ce qu'il dit Emmanuel Macron? C'est la hantise de voir justement l'extrême droite le succéder. C'est possible?
Alors, c'est la hantise de tous les responsables politiques en Europe. Puisque c'est comme ça que Mario Draghi va se faire remplacer.
Tout le monde est inquiet.
Par Giorgia Meloni.
Tout le monde est inquiet de la victoire de l'extrême droite. Hein.
Alors, la victoire.
En Suède, en tout cas, qui provoque.
De l'extrême droite et de la droite conservatrice en Italie. Possiblement d'une. On ne peut pas la qualifier vraiment de droite ou de gauche, mais en tout cas d'un parti plus conservateur en Bulgarie. Il y aura des élections anticipées en octobre. Mais il faut quand même rappeler les choses. Premièrement, si on regarde la plupart des responsables politiques en Europe, ils sont plutôt à droite et moins progressistes. Hein, Viktor Orban en Hongrie, le FPÖ en Autriche, le président Andrzej Duda, qui a beau être occidentaliste, proche des Américains, qui reste un populiste de droite en Pologne, en Suède désormais, demain, dimanche, donc lundi matin, en Italie, Giorgia Meloni sera la future présidente du Conseil italien, avec Matteo Salvini, qui est sans doute encore plus à droite qu'elle, alors qu'elle est héritière d'un parti fasciste. L'extrême droite en Allemagne est forte, l'extrême droite en Espagne est forte, et l'extrême droite en France se confirme une force politique majeure avec 89 députés. Donc oui, le risque, non pas d'une arrivée au pouvoir, parce qu'ils sont déjà au pouvoir, c'est ce que je veux dire au Parlement européen, ils sont déjà massivement représentés. Je rappelle que sur les 79 députés européens français qui représentent la France, il y en a quand même 22 ou 23 qui sont d'extrême droite. C'est-à-dire plus que le parti présidentiel.
Donc en Europe, il pèse. Au Conseil européen, il pèse.
Il pèse au Parlement européen, déjà. Il pèse dans un certain nombre de pays européens et il pèse sur le débat d'idées dans les pays européens. Donc ça fait déjà...
L'Allemagne, l'Espagne, la France,
dans tous les pays, l'Allemagne, la France, l'Espagne. Je reviens de Roumanie. Le parti d'extrême droite en Roumanie, avant la crise, évidemment, pesait beaucoup plus qu'il ne pèse maintenant. Enfin bon, il représente encore 12-15% du corps électoral.
Et donc, ça veut dire quoi tout ça?
Ça veut dire que le clivage entre les humanistes et les populistes est quelque chose qui me semble devoir être un peu plus mesuré. Et que si on est dans des annonciations ou dans des déterminismes politiques, on est obligé de se rendre compte que le camp minoritaire est celui des progressistes. Ça, c'est une réalité. Parce que, comme je l'ai dit, en République tchèque, en Pologne, en Slovénie, demain en Bulgarie, demain en Italie, peut-être d'ailleurs en Espagne. S'il y a une coalition de droite en Espagne, l'extrême droite pèsera sur les débats en Espagne. À l'exception de l'Allemagne, où c'est une coalition du centre et de la gauche qui a chassé l'extrême droite, même si Vox, pardon, l'AFD, Vox est en Espagne et l'AFD est en Allemagne. Donc, premier élément, après je ne veux pas non plus être trop discret, mais pour donner la parole à Philippe, mais l'extrême droite est ancrée dans la vie politique européenne déjà depuis une vingtaine d'années. Mmh. Donc l'idée selon laquelle il faille la combattre maintenant est pour nous la preuve qu'on n'a rien fait jusqu'à présent. Parce que si l'idée de la combattre c'est juste parce qu'elle peut arriver au pouvoir, bah là on a tous échoué.
On a tous échoué. Philippe Nadjibouriaki.
Merci. Non, je pense qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a instrumentalisé l'extrême droite à des fins politiciennes. Et ce jouet qui était la nitroglycérine, celles et ceux qui étaient précédents aux manettes, partout en Europe, ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient laisser un cadeau empoisonné pour les générations futures. Et donc, tu as deux camps qui sont en train de se dessiner. Et d'ailleurs, on pourrait faire même une projection en France. Admettons, c'est Ciotti qui devient le patron des LR. Quelle différence qu'il y a entre Ciotti, Le Pen et Zemmour ?
Il est effectivement en tête parmi les
voilà. Elle est
les
pas,
prétendants.
Elle n'est pas aussi flagrante que ça, quoi. Certains appelaient justement à faire des ponts transversaux entre des patriotes, des souverainistes. Ouais, la chose peut être inquiétante. Et donc, forcément, les blocs démocrates, les blocs centristes, les blocs progressistes n'ont pas d'autre alternative qu'à un moment donné de se retrouver dans une coalition pour éviter la catastrophe. Et puis, elle se nourrit de la peur, elle se nourrit de la haine, elle se nourrit surtout de la misère et de la crise. On voit Hitler, il n'y aurait pas eu 29, ne passait pas. Et donc, la crise que nous vivons l'après-Covid, la crise énergétique que nous sommes en train de vivre, ne peut que leur profiter. Et dans un monde incertain, on retrouve des instincts primaires qui font qu'on veut protéger notre famille. Et lorsque on a un discours ultra populiste en disant la nation, c'est celles et ceux qui sont de telle race, de telle religion, de telle ethnie, donc nous sommes une seule et même famille, et ben c'est un message percutant et que le tout à chacun peut entendre, et certains le comprennent et y adhèrent.
Emmanuel Duplessis, vous avez dit effectivement, vous avez fait un tour d'horizon sur le paysage politique européen, mais tout de même, est-ce qu'on a une explication de cette poussée de l'extrême droite ?
Bon, déjà, la poussée de l'extrême droite, elle correspond sociétalement à une radicalisation des thèmes, avec des thèmes qui sont en fait des thèmes de répulsion, en tout cas perçus comme des thèmes de répulsion. Le fait qu'il y a une paupérisation des zones populaires, et donc l'aggravation de l'attrition du pouvoir d'achat des Français qui, de facto, rendent responsables des gens qui sont au pouvoir, en l'occurrence, qui ont été au pouvoir. La gauche ou la droite, en se disant, bah après tout, ça n'a pas forcément été mieux à gauche ou à droite, bah pourquoi pas tenter une autre expérience, on verra bien. Avec une forme de résignation démocratique, qui correspond au fait que les Français se disent, c'est pas par le vote que l'on va améliorer notre vie. Donc il y a, je pense, une sorte de concomitance, le désaveu politique, ou la volonté de ne plus croire en politique, et le fait que les partis extrêmes qui de facto ont le rôle le plus facile. Parce que quand vous êtes populiste ou quand vous êtes de parti extrémiste, bah vous aggravez les choses, vous caricaturez les choses. La politique, c'est complexe. La responsabilité politique, ça implique de la maturité, ça implique de la complexité et ça implique parfois du compromis. Alors que les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite ne proposent pas du tout ça. Ils proposent une radicalité, une rapidité en disant ça n'a pas marché parce qu'ils étaient trop mous. Ça n'a pas marché parce qu'ils n'étaient pas suffisamment décisifs dans leur prise de parole. Donc c'est plutôt facile pour les partis d'extrême de dire que ça ne marche pas parce que le centrisme ou le juste milieu, ben forcément c'est une vie politique un peu fade et aseptisée.
On marque la dernière pause. On marque juste la dernière pause et on se retrouve tout de suite après. Ok, messieurs, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, messieurs, je voudrais vous entendre. Vous savez quoi sur ces violences faites aux femmes ? La gauche, très embarrassée, gênée, après Adrien Quatennens, l'affaire Julien Bayou. Bref, on peut dire que la gauche est dans l'embarras, messieurs. Oui, non. Et puis, Philippe Nadjiboyaki, tiens.
Oui. Il a la préséance là-dessus, parce que c'est quelque... une famille qui connaît bien.
Ouais, bon, je pense qu'on peut dire maintenant l'extrême gauche est dans l'embarras, puisque depuis qu'il y a la NUPES, ELV a vendu son âme au diable. Ce que je peux vous dire sur l'affaire Julien Bayou, puisque je connais un petit peu le sujet et je n'avais pas fait cette corrélation avant. La personne en question, l'ex de Julien Bayou, c'était son ex pendant les régionales. Et il s'avère qu'au soir du premier tour, les candidats, moi j'étais binôme tête de liste, on était invités et je me suis retrouvé avec elle tout seul et une copine à elle sur la mezzanine. Et nous avons échangé, je lui dis que j'étais instructeur de self-défense, elle m'a demandé de lui montrer deux, trois prises. Et ce que je remarquais, c'est que souvent les sbires de Julien Bayou montaient assez régulièrement, ils tournaient dans la pièce, mais sans rien dire, plutôt observateur. Et Julien, qui était au pupitre, regardait souvent dans une direction. Je ne savais pas que c'était sa petite amie, de toute façon, ça n'a rien changé sur la discussion qu'on a eue. Et elle m'a posé une question qui aujourd'hui fait résonance, à l'époque pas du tout, parce que souvent on me le pose lorsque j'ai des nouveaux élèves, c'est que procure le self-défense. Et donc j'explique que c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde, y compris des plus fragiles, et rapidement, au bout de 10 minutes, on peut t'apprendre à mettre quelqu'un au sol, et ça te donne une confiance en toi qui est juste extraordinaire. Et ce que ça procure, tous les sports, bien évidemment, hein, je veux pas tirer la couverture vers la self-défense, mais en tout cas, tous les sports de
combat,
de pied-poids, de combat, de défense plutôt, que de combat, mais y compris combat, te donne une assurance en toi, une énergie qui te permet, quand t'es à ton boulot, quand t'es à l'école, quand t'es dans une situation difficile, de maîtriser la situation et de ne plus avoir peur de ça. On transforme la peur en énergie positive. Et donc, elle m'avait posé une question à l'époque, est-ce que ça permet de se dégager de l'emprise de quelqu'un? Et je lui dis, alors, il y a plusieurs facteurs, bien évidemment, mais ça, c'est, là, c'est un aspect psychologique, mais c'est le même principe lorsque t'es dans une situation d'agression, il y a un côté ultra psychologique. Et si t'es sûr et que t'es fort, que t'es solide, cette appréhension, tu la transformes en chose très forte. Donc, c'est un facteur aidant à sortir d'une emprise psychologique d'un pervers narcissique et ça. Je dis pas que Julien Bayou est pervers narcissique. Mais en tout cas, j'ai vu que ça avait déclenché quelque chose chez elle. Et comme je ne savais pas que c'était l'ami de Julien Bayou, aujourd'hui, ça fait résonance.
Emmanuel Dupuis.
J'ai pas le vécu de Philippe par rapport à cette famille politique que j'ai combattue et que je combatte toujours. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les responsables politiques, en général, répondent à des questions qui, in fine, sont des questions de mœurs, mais qui ne le sont pas. Parce que quand vous êtes responsable politique, ce que vous faites chez vous impacte aussi sur l'image que l'on a d'exemplarité, le devoir, le besoin d'exemplarité de chaque élu. Parce que j'ai vu dans certains débats l'idée selon laquelle c'est une question personnelle. Après tout, Adrien Quatennens était en divorce et que ça ne concerne que les deux plaignants. Sauf que non. Ils sont députés de la nation. Ils ont porté ce débat publiquement avec, bien sûr, une immixtion dans leur vie privée, mais une réponse positive. Jean-Luc Mélenchon qui a pris parti pour l'un aux dépens de l'autre. Alors, il s'est ravisé ensuite en disant « Je pense bien évidemment à l'épouse d'Adrien Quatennens et donc je me montre solidaire. » Donc, c'est quelque chose qui est dans le débat public. Donc, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les responsables politiques se doivent d'avoir une exemplarité permanente. Exemplarité en termes d'éthique financière, d'éthique et de probité morale, mais aussi de probité religieuse, peu importe.
Philosophique
ou de probité dans la manière dont ils gèrent leurs relations personnelles. Comment peut-on faire confiance à un élu qui est supposé représenter les citoyens qui chez lui, bafoue ses principes? Donc, de vous à moi, je pense qu'il eût été normal que les deux députés démissionnent.
Ça aurait été courageux de leur part,
ça aurait été logique.
Logique.
Normal. Courageux, bien sûr.
Oui, courageux,
normal. Normal. Qui démissionne. Et que, évidemment, j'espère que ces deux cas qui concernent cette famille politique, mais entre nous, c'est pas parce que c'est l'extrême gauche, c'est pas parce que c'est la NUPES. Il n'y a pas de procès contre la NUPES. Ça concerne toutes les familles politiques. La classe politique, parlons en général. Et donc, je pense que c'est un débat salutaire qu'il faut avoir.
Un débat salutaire qu'il faut avoir, et le débat continue d'ailleurs un peu partout, effectivement. Merci à Emmanuel.
Juste dernière précision, concernant Julien Bayou, on ne parle pas que d'une seule fille. Il y a des révélations qui vont arriver dans les prochains jours. C'est c'est compliqué.
Et voilà un scoop.
Ce que vous avancez là, c'est...
Très compliqué. Bon. Il faut suivre.
On va suivre. Emmanuel Dupuis, merci. Président de l'IPSE, conseiller régional. Et
avec plaisir.
Oui, avec plaisir. Philippe Nadjiboyaki, conseiller régional, merci. Notre cher Tarek à la réalisation, merci à lui. Et les très nombreux auditeurs au 0153, énorme. Eh bien, on remet ça demain. Bilal Nedman, 20-21. Vanessa, 21h, pardon. Et quant à moi, à demain, avec autant de plaisir. Mais surtout...
Hélas, on ne lâche rien.
Hélas.
On ne lâche rien.
On ne lâche rien. À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.